Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba.
Ce journal s'ouvre par cette réaction de la MONUSCO en rapport avec la signature entre la RDC et le Rwanda de la déclaration des principes du 25 avril dernier. Elle se dit satisfaite de l'engagement des intervenants à lui apporter leur soutien dans l'accomplissement de son mandat, spécifiquement la protection des civils et l'exécution de la résolution 2773. Ce mois d'avril, avec son lot de dégâts à cause des fortes précipitations, nous parlons dans cette édition des centres hospitaliers, écoles et habitations privées qui ont perdu des toitures, murs écroulés, ainsi que des biens détruits. Ça se passe à Bukama dans le Haut-Lomami. La société civile lance un SOS pour une assistance. Marguerite Niki Imayonda, point focal intérimaire de l'Union des écrivains du Congo dans la Tchopo, est invitée de ce journal. L'entretien avec Radio Kapi tourne autour de ce métier d'écrivain qui a du mal à prospérer. Principal obstacle, difficulté pour la publication de leurs œuvres dont leurs manuscrits moisissent dans les tiroirs. Je vous invite à présent à une balade à travers les provinces de la RDC pour découvrir les réalités spécifiques de chaque coin. Le tout c'est sur Radio Kapi, votre source fiable d'informations de notre pays. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. À vous tous qui nous suivez de partout, bonsoir. Sachez tout d'abord que le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, est arrivé ce dimanche à Kinshasa, en provenance du Burundi, dans le cadre de sa première visite de travail dans la région africaine des Grands Lacs. Après le passage de ministre en Ouganda, le Burundi s'imposait comme autre interlocuteur clé au sujet du conflit dans l'est du Congo, a-t-il assuré. Même si on en parle moins souvent, les projecteurs étant braqués sur le Rwanda et la RDC, tant en l'Ouganda que le Burundi, ont des forces armées présentes à l'est du Congo. Ils jouent aussi un morceau de la partition. Nous allons passer maintenant à notre premier titre de cette édition. La MONUSCO salue la signature de la déclaration des principes intervenus le 25 avril 2025 à Washington DC sous les auspices du département d'État américain entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. Dans un communiqué publié hier samedi, la MONUSCO relève l'engagement des participants à soutenir la mission dans l'accomplissement de son mandat, notamment la protection des populations civiles et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La mission prend note également de la volonté des participants à protéger, faciliter et promouvoir sa capacité d'action, ainsi que celle des forces et mécanismes régionaux agissant conformément à leur mandat. Plus de détails avec vous, Alain Rong.
La signature de cette déclaration traduit une volonté de consolider les avancées obtenues grâce aux efforts antérieurs et d'ouvrir la voie à un renforcement de la coopération. La MONUSCO demeure prête à soutenir les efforts de mise en œuvre, notamment en matière de protection des civils et de consolidation de la paix, a déclaré Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Cette déclaration de principe constitue une étape importante en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La MONUSCO se félicite de voir les parties s'appuyer sur les avancées obtenues lors des initiatives précédentes, notamment le processus de Luanda et les efforts de médiation menés par le président angolais João Lourenço sous l'égide de l'Union africaine. La MONUSCO se félicite des principes affirmés par les deux pays, notamment le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends et la volonté de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes. La mission salue également la décision des deux pays à lutter conjointement contre la prolifération des groupes armés non étatiques et à promouvoir un cadre d'intégration économique régionale transparent au bénéfice des populations.
Nous descendons à présent sur terrain et nous commençons par le Nord Kivu. La société civile du territoire de Walikale alerte sur la détention illégale et la circulation incontrôlée d'armes à feu par des civils et quelques militaires incontrôlés dans la région. Ce qui est une source de recrudescence de l'insécurité et fait des victimes dans la cité de Walikale et dans d'autres agglomérations. Dans une note de plaidoyer aux autorités, elle sollicite la mise en place d'un mécanisme de ramassage d'armes. On écoute Fiston Missona, président de la société civile territoriale de Walikale.
Il y a déjà des incursions nocturnes, même pendant la journée,
qui sont documentés, enregistrés ci et là, que ça soit au niveau du chef-lieu du territoire, que ça soit aussi dans des cités et grandes agglomérations du territoire de Walikale. Il y a des cambriolages, il y a des crépitements de balles ci et là, et tout cela est fait par certains éléments, est contrôlé par les VDP, voire même les civils qui détiennent justement des armes et qui ne sont pas contrôlés. Et même certains éléments délinquants, indisciplinés au sein de nos forces armées de la République font aussi n'importe quoi. C'est pour cela que nous alertons une fois de plus les autorités congolaises et aussi les VDP de veiller à cela et faire des surveillances pour arrêter ce genre de la situation qui se passe dans les différents axes du territoire de Walikale, pour épargner un peu la population de cette insécurité et qui risquerait aussi d'embraser la situation sécuritaire.
Cette autre dénonciation, toujours dans le Nord Kivu, l'organisation Médecins sans frontières MSF en RDC condamne fermement les actes d'insécurité qui touchent ses équipes sur le terrain dans cette province. Dans son récent communiqué de presse, MSF fait état d'une quinzaine d'incidents depuis janvier affectant directement son personnel, ses ambulances, ses bureaux et les structures de santé qu'elle soutient. Tragiquement, trois de ses agents de terrain ont perdu la vie. Le dernier cas en date est celui d'un infirmier travaillant à l'hôpital général de référence du Massissi Centre. Il s'agit du deuxième employé de MSF tué par balle à Massissi Centre en seulement 2 mois et du troisième membre de l'organisation à perdre la vie de cette manière dans le Nord Kivu depuis le début de l'année. Pour Emmanuel Lampère, représentant de MSF en RDC, cela doit cesser de toute urgence. On l'écoute.
Vendredi passé, nous avons perdu à nouveau un collègue, un collaborateur terrain, un infirmier de l'hôpital général de référence de Massissi, tué par balle à son domicile par un homme armé en uniforme. C'est le troisième collègue à perdre la vie par balle depuis fin janvier dans le Nord Kivu. Nous condamnons cet acte terrible qui a coûté la vie, encore une fois une vie, d'un collègue, d'un infirmier. Et cela le fait malheureusement une dégradation sécuritaire que nous constatons dans les Kivu depuis le début de l'année. Nos équipes sont malheureusement témoins, mais aussi victimes d'incidents qui affectent les civils, les travailleurs humanitaires, les structures médicales et qui reflètent aussi un manque total de respect pour ceux-ci et un manque de protection de cela. Cela doit cesser. Même loin des lignes de front, l'insécurité est partout.
Toujours dans ce même ordre d'idée, MSF exhorte les autorités chargées à encadrer les porteurs d'armes et à agir immédiatement pour assurer la sécurité des civils et des humanitaires, à lutter contre la criminalité et à mettre fin aux exactions dont ces équipes sont témoins quotidiennement. Nous allons quitter le Nord Kivu, donc la partie Est, pour aller momentanément dans la province du Nord Ubangi. À Kotakoli, la vie a repris son cours normal ce dimanche après l'attaque des militaires contre la population suite au coup de foudre qui a tué pendant la semaine 2 militaires. Kotakoli est un groupement qui abrite le centre d'entraînement commando. Il est situé à 90 km de la ville de Guadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi. L'ordre est rétabli suite au déploiement des deux généraux de l'armée venus respectivement de Kinshasa et de la région militaire de Mbandaka. L'administrateur du territoire de Mobayimbongo, auquel appartient Kotakoli, a accompagné ces autorités militaires qui ont pu restaurer la paix avec la réaction rapide d'une unité de la police militaire. Roger Mbangabia, SCC, est joint au téléphone par Askenzi Datayoro.
Il y a des dégâts énormes au point de vue matériel. Il y a 4 civils qui sont tués. On a répertorié chaque ménage, ce qu'on a brûlé, tout ça, on a remis au général. Le général nous a promis que l'athée, je vous garantis, il y aura une réparation dans moins de temps. La République va réagir. Le général a demandé de sincères pardons au nom du président de la République, au nom de son titulaire qu'il a envoyé ici. Il nous a demandé pardon pour les actes commis par la force armée congolaise là. Et ces gens-là sont arrêtés. Il y a plus ou moins 43 qui sont devant la cour militaire et ça siège sur place à Kotakoli. Le commandant d'état-major général, par le biais de son envoyé, il avait envoyé quelque chose pour qu'on puisse faire des gestes de réconciliation.
Deuxième titre de cette édition du journal sur Radio Okapi, qui émet depuis Kinshasa où il est 18h10 et 19h10 dans la province du Olomami. La société civile du territoire de Bukama dans le Olomami lance un SOS. Plusieurs maisons sont détruites à la suite des fortes pluies qui se sont abattues vendredi dans la soirée. Certains sinistrés sont sans abri et exposés aux intempéries. D'autres détails avec Augustin Monga, coordonnateur de cette structure citoyenne, joint par Jean Gandou.
Hier soir, après-midi, vers 17h, s'est abattue une grande pluie dans la cité de Bukama et ses environs, et cette pluie a causé des dommages dans la communauté. Notamment, nous avons des centres de santé qui ont perdu des toitures, et l'équipement même du centre de santé est tout endommagé. Nous avons des écoles qui ont perdu des toitures, certaines même de murs, y compris les d'habitation. Certaines ou nombreux sont restés sans abri. Alors, voyant l'énorme de cette catastrophe, la société civile lance un cri d'alarme aux hommes de bonne volonté, tels que les ONG nationales et internationales, de nous venir en aide pour cette population. C'est pourquoi nous demandons aussi, puissions aussi avoir un soutien. Vraiment, nous sommes dans l'impossibilité.
Nous venons de l'apprendre, un incendie d'origine électrique s'est déclaré vendredi dans le quartier Lumumba au sein de la commune rurale de Kassindi-Lubiria, frontalière de l'Ouganda, 90 km de la ville de Beni, au nord Kivu. Selon des sources locales, une maison de projection cinématographique ainsi que plusieurs habitations ont été ravagées par les flammes, tandis qu'un bistrot a été partiellement endommagé. La société civile locale appelle les autorités à doter la commune rurale de Kassindi-Lubiria d'un véhicule anti-incendie pour mieux faire face à ce type de sinistre. Son porte-parole Paul Zaidi s'est confié au téléphone de Martial Papimukeba.
Nous appelons les techniciens de la Société Nationale d'Électricité SNEL Unité de Kassindi de bien vouloir organiser de façon régulière des visites à domicile dans le cadre d'apprécier la qualité des installations des fils électriques auprès de leurs abonnés à consommation domestique tout comme à consommation commerciale. Que cette situation puisse constituer un mal nécessaire qui va obligatoirement interpeller la conscience des tenants de la parcelle du pouvoir public de doter un camion anti-incendie qui servira en cas d'extrême urgence la population de cette partie du groupement Basongora en voie de développement, puisque c'est inacceptable de voir l'explosion démographique de Kassindi et les activités qui y sont menées et que l'entité soit dépourvue vraiment d'un camion anti-incendie.
Concernant toujours cet incident, nous n'avons pas pu avoir la réaction du bourgmestre de la commune rurale de Kassindi-Lubiria. Six cas suspects de maladie d'anthrax, également appelée maladie du charbon, ont été notifiés dans l'alerte santé de Kasalala, en territoire de Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon le médecin chef de zone de santé qui livre l'information, un décès a déjà été enregistré. Face à la situation, Dr Cyril Mumbere Moussivirua, qui indique que les autorités sanitaires sont en alerte, appelle la population au calme et à respecter les mesures de prévention. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Nous avons déjà enregistré 6 cas suspects d'anthrax, dont un décès. Les cas concernent l'unique aire de santé de Kasalala. C'est là l'épicentre de la maladie. Donc tous les cas viennent de là parce que ce sont des personnes qui travaillent dans cette aire de santé. Lorsque la maladie s'est déclarée, il y avait une panique générale. Après même le décès, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qui est important, c'est la prévention. Et la prévention consiste à des mesures. Et ici, la question de se rappeler tout simplement les mesures de prévention que nous avons publiées lors de la riposte contre la MVE, la maladie à virus Ebola. Il faut respecter le lavage des mains, éviter les contacts avec les malades. Il faut déclarer le plus tôt possible dès qu'il y a une apparition des symptômes.
Avant de passer à la page internationale, sachez que plus de 11 700 opérateurs économiques non payeurs des impôts initiés par l'Inspection Générale des Finances sont sommés de régulariser leur situation fiscale. Dans un communiqué parvenu ce dimanche à Radio Capi, le ministère des Finances invite ses opérateurs économiques à se présenter au plus tard le 5 mai prochain auprès de leurs services gestionnaires aux fins d'une régularisation spontanée. Dépassé ce délai, le ministre des Finances annonce des mesures contraignantes, parmi lesquelles des pénalités fiscales, le gère des avoirs bancaires. Détail avec Michel Kifinda.
D'après le communiqué du ministère des Finances, l'inspecteur général des Finances a entrepris un travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la Direction générale des impôts. À l'issue de ce travail, Il en résulte que 11 717 opérateurs économiques identifiés dans ce répertoire comme étant sans adresse connue et sans activité sont en réalité actifs. Étant donné que ces opérateurs économiques n'ont fait l'objet d'aucune mesure de relance malgré l'absence de souscription aux déclarations fiscales requises, le ministère des Finances les invite à se présenter au plus tard le 15 mai auprès de leurs services gestionnaires, faute de quoi des sanctions lourdes allant du gel de leurs avoirs aux poursuites judiciaires pourront être initiées contre eux. Parmi ces opérateurs, renchérit le communiqué, certains qui se considèrent être en conformité peuvent se présenter auprès de l'administration fiscale avec le document prouvant la régularité de leur situation fiscale.
Actualité internationale.
42 jours après la sortie de l'hôpital du dernier patient confirmé, le gouvernement ougandais a déclaré la fin de la sixième épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé ougandais le 26 avril 2025. La fièvre hémorragique virale qui présente 6 couches différentes, dont une déclarée au Soudan notamment, avait contaminé 12 personnes confirmées et 2 cas probables recensés en Ouganda depuis fin janvier. Et puis, une explosion massive et un incendie ont secoué le port de Shahid Rajaï dans le sud de l'Iran samedi. L'explosion apparemment liée à une cargaison d'un ingrédient chimique utilisé pour fabriquer des propulseurs des missiles a tué 28 personnes et en a blessé environ 800 autres selon le dernier bilan.
L'invité.
Les écrivains de la province de la Tchopo sont plongés dans la léthargie depuis bien des années et pourtant les talents sont bien présents dans l'univers littéraire local. Selon le point focal de l'Union des écrivains du Congo dans la Tchopo, ils éprouvent plusieurs difficultés pour la publication de leurs œuvres. Pour en parler, nous recevons Marguerite Nikini Mayonda, point focal intermédiaire de l'Union des écrivains du Congo, section Tchopo. Elle s'entretient avec Jacques Mokonkole.
Marguerite Niki, bonjour.
Bonjour Monsieur Jean-Jacques.
Quel bilan pouvez-vous dresser des activités littéraires dans cette entité?
Les bilans comme tels, il est quelque peu mitigé, dans ce sens que les écrivains dans la Tchopo, on les trouve. Les écrivains, ils ont quelques œuvres qui sont encore à l'état de manuscrit. Et les écrivains peinent à pouvoir éditer leurs œuvres pour pouvoir les diffuser, pour que le public ait accès à ça. Et donc, il y a des difficultés, tout ça. Les œuvres sont là. Il y en a d'ailleurs dont les auteurs ne sont plus de ce monde, alors qu'ils espéraient pouvoir éditer leurs œuvres et les mettre à disposition du public. Et donc, la littérature en soi a quelque peu de difficultés au niveau de la province de la Tchopo.
À cause de ces difficultés qu'il n'y a pas assez de production, est-ce qu'il y en a quand même de récentes par rapport à celles qui avaient déjà été publiées, qui se retrouvent même dans l'anthologie?
Oui, l'anthologie c'est depuis 2000. Hein. Il y a des œuvres qui sont là, qui attendent d'être publiées. Il y en a même qui ont été éditées tout à fait gratuitement par les relations de quelques écrivains au niveau de l'Europe. Et Eddie Livre, par exemple, a édité pour feu François Bolondo. Ces livres ne peuvent pas arriver ici parce que malheureusement, l'auteur n'a pas la possibilité de payer les frais. On a édité gratuitement pour que les livres arrivent ici.
Et puis, il n'existe plus, vous avez dit qu'il nous a déjà quittés.
Il n'existe plus.
Quelles sont les principales difficultés qu'éprouvent les écrivains congolais de la Tchopo?
Bon, vous savez, hein, depuis les turbulences des années 90 et qui ont été suivies par 30 années de guerre nous imposées justement par le voisin rwandais. En tout cas, les activités culturelles sont plongées dans la léthargie. Oui, parce que d'abord, les structures appropriées pour la promotion et la diffusion des œuvres littéraires n'existent plus. On n'a pas de bibliothèque ici. On n'a pas de maisons d'édition. On n'a pas. Et quand on a une maison d'édition, il y a des métiers corollaires pour aider à pouvoir sélectionner des manuscrits qu'il faut, des manuscrits qui sont intéressants pour pouvoir les éditer et mettre à la disposition du public. Donc, il y a cette difficulté-là. Il y a aussi le pouvoir organisateur qui ne s'intéresse pas tellement à la promotion et des écrivains dans notre province. Donc, l'écrivain a des difficultés. Il y a aussi la problématique de la lecture. On dirait que notre population dans la ville, dans la province de la Tchopo, en tout cas, et je dirais même dans l'ensemble du pays, néglige un peu la lecture. C'est ça les difficultés que nous avons. Or, l'écrivain qui a un talent naturel doit vivre de son talent. C'est pas pour rien que l'État a pris une loi pour protéger son droit et pour protéger aussi son œuvre. Mais les difficultés, on en a.
Et donc, on peut dire que la morosité de la situation socio-économique serait pour beaucoup.
Oui, oui. C'est pour beaucoup. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous devons réfléchir pour voir dans quelle perspective nous pouvons arriver à faire quelque chose pour que l'écrivain, quand même, se retrouve, parce qu'il est important dans la société.
Est-ce que des maisons telles que l'Alliance française ou les Paulunes ne peuvent pas être utiles aux écrivains congolais de la Tchopo?
Je me rappelle encore du temps du centre culturel français. Il y avait une effervescence des activités culturelles ici, peut-être parce qu'il y avait suffisamment de moyens et on pouvait initier beaucoup d'activités culturelles intéressantes, tous les types d'artistes, tout ça. Mais pour le moment, avec l'Alliance française, je crois qu'il n'y a pas tellement de moyens, mais l'Alliance française est toujours disposée à donner gratuitement, par exemple, la salle aux artistes pour pouvoir se produire, tout ça. C'est vraiment un avantage que nous avons parce que les directeurs nous a rassuré, vous pouvez venir pour ça. Je mets la salle à votre disposition. Mais le problème de l'écrivain, c'est de voir son œuvre éditée et publiée. C'est ça le problème majeur qu'a l'écrivain dans la province de la Tchopo.
Et que faire pour redynamiser les activités littéraires dans la Tchopo?
Bon, je me dis ceci, que nous devons, l'Union des écrivains congolais en tête de la Tchopo doit aussi solliciter la collaboration des enseignants du primaire et du secondaire, parce que le livre, c'est d'abord la lecture. Quand on n'a pas le goût de la lecture, on ne saura pas accéder au trésor contenu dans les livres. Je crois qu'on doit stimuler le goût de la lecture. Nous devons travailler de commun accord pour initier des activités. Il y en a plein. Initier des activités pour que les jeunes qui grandissent prennent goût à la lecture, pour aussi que les adultes aussi donnent la parole aux écrivains, pour qu'ils parlent de leurs œuvres, pour qu'ils sortent par eux-mêmes les trésors enfouis dans leurs œuvres, pour que le public s'intéresse à eux. Se faire connaître du public, c'est aussi important.
Marguerite Niki Imayonda, merci.
C'est moi qui vous remercie sincèrement.
Fidèles auditeurs, je vous signale que ce journal vous a été préparé par Jacques-Yves Molima, Alain Irung, Pierre Diassino a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Loutma vous l'a présenté. Merci de l'attention que vous nous avez accordée.